C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Imran, je vous souhaite la bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix. Dans notre émission du jour, nous allons parler de science participative, comment collaborer avec la communauté scientifique, quels sont les programmes qui existent et quelles sont les structures de science participative sur le territoire de Caen. Pour aborder ce thème, nous recevons en studio Anaïs Provost-Gauvrich, chargée de communication au CPI Vallée de l'Orne, le centre permanent d'initiative pour l'environnement et responsable du musée d'initiation à la nature de la ville de Caen, et François Millet, directeur du projet Science avec et pour la société au Dôme de Caen. Mais tout de suite, les infos sciences de la semaine. L'actualité scientifique commence avec un phénomène météorologique de grande ampleur. Le week-end dernier, la Guadeloupe a été touchée par des intempéries particulièrement violentes. Les communes de Pointe-à-Pitre, des Abîmes et du Gosier ont été frappées par des précipitations massives. La pluviométrie a dépassé 300 mm, soit un phénomène supérieur à celui enregistré lors du cyclone Maria en 2017, a indiqué la préfecture. Météo France avait bien entendu alerté les habitants. L'île était en vigilance rouge, orage et forte pluie depuis vendredi soir. Deux hommes ont été retrouvés dans leur véhicule emporté par les eaux, ils sont décédés. Une troisième personne, un jeune homme de 30 ans selon les médias locaux, a également été porté disparu et les recherches pour la retrouver demeurent vaines à ce stade. L'approvisionnement en électricité a été temporairement interrompu par les vents et la distribution de l'eau par les éboulements dus aux inondations. Au total, 80 pompiers ont été engagés au cours de l'après-midi afin de porter assistance aux sinistrés et effectuer des reconnaissances, selon la préfecture, qui précise aussi que la zone de Pointe-à-Pitre est la plus durement touchée par les intempéries tend à se stabiliser. Partons à présent pour l'Asie, où depuis jeudi dernier, la situation est de plus en plus critique. Des vagues de chaleur s'abattent actuellement sur l'Inde et le Pakistan, provoquant une crise climatique. Des records de chaleur ont été atteints comme à New Delhi, la capitale de l'Inde, où l'on a recensé 46,2 degrés Celsius, et à Islamabad, la capitale du Pakistan, où le mercure est monté jusqu'à 40,6. Ces températures anormalement élevées pour un mois d'avril sont la cause du réchauffement climatique, comme l'ont décrit les experts du GIEC dans leur sixième rapport sur le changement climatique. Valérie Masson-Delmotte, climatologue et coprésidente du GIEC, avait alors déclaré en août 2021 que c'est indiscutable, c'est un fait établi, les activités humaines sont à l'origine de ce réchauffement climatique. Les conséquences de tels phénomènes météorologiques sont nombreuses. Dans certaines villes, les habitants ont dû faire face à des coupures d'électricité, des pénuries d'eau, des feux de décharge ou encore des cultures ravagées par la chaleur. Il faudra attendre encore quelques jours pour connaître le bilan humain de cette crise climatique. Ce qui est sûr, c'est que parmi les millions d'habitants de cette région du monde qui sont impactés, ce sont les plus pauvres qui souffrent le plus du manque d'accès à l'électricité et à l'eau potable. Environnement toujours, une nouvelle limite planétaire a été franchie. Cette sixième limite planétaire est celle du cycle de l'eau douce. Ce sont les scientifiques qui alertent à nouveau sur ce danger pour la biodiversité. Dans la revue Nature, le jeudi 28 avril, ils expliquent que le cycle de l'eau, qui comprend les précipitations, l'humidité du sol et l'évaporation, est en dehors de la zone de sécurité. Cette ressource est maintenant largement perturbée par les pressions humaines à échelle continentale et planétaire, écrivent-ils. Ces pressions humaines sont dues à l'utilisation massive d'eau douce, nos besoins dans l'agriculture, l'industrie et les aménagements du territoire sont démesurés. Jusque-là, seule l'eau bleue était prise en compte dans les calculs, c'est-à-dire la part de l'eau issue des précipitations atmosphériques qui s'écoulent dans les cours d'eau jusqu'à la mer ou qui se déversent dans les lacs ou les réservoirs. Pourtant, l'eau verte absorbée par les végétaux est-elle essentielle à l'humidité des sols et au processus d'évaporation tout en permettant une meilleure résilience du système Terre. Notre planète compte 9 limites planétaires, 6 ont été franchies pour l'instant, celle du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, des perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore, de l'usage des sols, de la pollution chimique et la dernière en date, donc l'eau douce. Seules 3 n'ont pas encore été franchies. Un mot d'aérospatial à présent. Jeudi 28 avril, la Station Spatiale Internationale a accueilli pour la première fois à son bord une femme noire. Son nom, Jessica Watkins. Passionnée de géologie, de rugby et d'espace, l'astronaute américaine de 33 ans s'est envolée mercredi dernier à bord de la capsule Crew Dragon, appartenant à la société américaine SpaceX d'Elon Musk. Lors de cette mission Crew 4 d'une durée de 6 mois, Jessica Watkins sera amenée à effectuer toutes sortes d'expériences en apesanteur. et à travailler sur le projet Artemis, dont le but est de fouler à nouveau le sol de la Lune à l'horizon 2025. Alors que l'ISS accueille des spationautes à son bord de manière permanente depuis 2000, il aura fallu attendre 22 ans pour que la première femme noire rejoigne son bord, à savoir que les femmes ne représentent que 10% des personnes du milieu très fermé de la spatiologie. Lors d'une conférence de presse organisée par la NASA, Jessica Watkins a ainsi déclaré que sa mission était un hommage aux femmes astronautes noires qui l'ont précédée, ainsi qu'à l'avenir passionnant qui nous attend. Et enfin, nous avons appris une disparition. Marthe Gauthier est décédée. Elle était un grand nom de la médecine française. Elle a découvert chez les enfants atteints de retard mental et d'anomalies morphologiques l'existence d'un chromosome surnuméraire, 47 chromosomes en lieu et place de 46. Ce chromosome surnuméraire est le responsable de ce qu'on nomme aujourd'hui la trisomie 21. Cependant, Marthe Gauthier a subi l'effet Matilda dont on vous a déjà parlé dans C'est pas faux. Disposant pas d'un microscope capable de prendre des photographies de la découverte, c'est un collègue, Jérôme Lejeune, qui est reconnu pour être le premier à avoir fait cette découverte, effaçant la reconnaissance du travail de Marthe Gauthier. C'est seulement en 2014 que son rôle est enfin pleinement reconnu. Marthe Gauthier nous a quittés samedi à l'âge de 96 ans.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Certains d'entre vous observent peut-être les oiseaux de leur jardin, la biodiversité du littoral, photographient les insectes pollinisateurs ou entretiennent un herbier. Eh bien, sachez que ces actions peuvent aider la science. On appelle cela la science participative, que l'on définit comme un partenariat entre des observateurs et un laboratoire ou une structure à vocation scientifique, avec pour objectif l'étude d'un phénomène et la collecte de données. Cette contribution citoyenne pour la science, c'est un véritable partage entre passion d'amateur et expertise de chercheur. C'est aussi un bon moyen pour les scientifiques de vulgariser auprès du grand public des phénomènes méconnus. Alors aujourd'hui, attachons-nous à décrypter le phénomène de science participative. Deux invités pour en parler sont presque autour de la table. Anaïs Provost-Gauvriche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication au CPI Vallée de l'Orne et responsable du musée d'initiation à la nature de la ville de Caen. Et François Millet devrait nous rejoindre, j'espère. Il est directeur du projet Science avec et pour la société au Dôme de Caen. Alors on va commencer avec vous, Anaïs. Quelle est ta définition de la science participative ?
La science participative, c'est un moyen, en effet, de connecter les citoyens avec le milieu scientifique. C'est demander au grand public, aux gens qui sont passionnés de nature, de pouvoir participer à des programmes pour collecter des données qui vont servir comme indicateurs pour des recherches scientifiques.
Ça fait depuis à peu près combien de temps qu'on connaît ce phénomène, qu'il y a des collaborations ?
Pour avoir regardé rapidement l'histoire, ça existe depuis quelques temps, mais c'est surtout depuis les années 90, avec vraiment la prise de conscience de l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité, qu'on a eu besoin d'indicateurs pour pouvoir vraiment mesurer l'impact de l'homme, mais aussi pour pouvoir voir aussi les effets des mesures de sauvegarde de la biodiversité. Donc voilà, il en existe de plus en plus. Le but, c'est pas qu'il y en ait plein, mais c'est aussi de voir ceux qui sont adaptés par rapport aux connaissances des gens et par rapport au lieu.
Je parlais dans mon introduction plutôt de la biologie ou alors de l'intérêt que certains peuvent avoir pour les insectes. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui sont concernées par la science participative ?
Alors, nous, on est un relais, un point info biodiversité. Donc, c'est vrai que nous, on va vraiment traiter les sciences participatives qui parlent de biodiversité. En effet, les plus connues sont celles plus naturalistes qui vont être des comptages ou des photographies d'animaux. Mais par exemple, celle qu'on est en train de développer sur le jardin du musée d'initiation à la nature, c'est l'observatoire des saisons. Donc c'est aussi, par exemple, prendre conscience du cycle de floraison de certaines espèces un peu sentinelles au jardin. Et ça, à quoi ça sert ? Et bien, en fait, c'est relativement simple à prendre en main, hein, le protocole, mais ça va permettre d'une année sur l'autre de voir à quel moment ces périodes arrivent et du coup d'avoir des données pour comparer les effets des changements climatiques.
Mais par exemple, dans le domaine de la santé aussi, il existe des sciences participatives qui sont, auxquelles on ne pense pas forcément, mais par exemple, quand il y a un test pour un traitement et qu'on fait un appel à certaines personnes dans la population, ça peut être considéré comme de la science participative. Est-ce qu'il faut forcément être débutant ou expérimenté? Quel niveau? Qui peut participer?
Nous, on est vraiment un endroit de sensibilisation, donc on va justement prendre les gens, quel que soit leur niveau. Le but de la collecte de données, c'est aussi que ce soit des données uniformisées, donc avec un protocole. Donc nous, on va aussi sensibiliser au protocole. Donc on a des programmes comme le grand comptage des oiseaux de jardin, qui est porté par le groupe ornithologique normand, qui va être adapté pour un public familial, parce que voilà, on va, et nous au jardin, on fait une sortie pour apprendre à reconnaître les oiseaux des jardins. Ils ont aussi développé un outil qui permet de connaître les espèces les plus communes. Donc c'est relativement accessible, après s'y être intéressé et après avoir pris connaissance du protocole.
Et ces publics, ça peut être plutôt des citadins ou des ruraux, ou justement est-ce que c'est important de parler à tous les publics?
Là, l'important, c'est d'avoir vraiment tous les publics, et pour les scientifiques, c'est vraiment de collecter des données un peu partout. L'intérêt des sciences participatives, c'est d'avoir un maillage le plus précis sur le territoire. Donc non, le but, c'est que ça touche tout le monde. En tant que donc CPIE, on est un réseau d'associations. On a la science participative Un dragon dans mon jardin, qui permet voilà de recenser les reptiles et amphibiens au niveau national. Alors nous, on s'occupe on est dans le réseau pour la Normandie. Là, par exemple, c'est très accessible puisqu'il s'agit de prendre une photo, de prendre le lieu le plus précis possible et la date. Donc vous voyez, on est quand même sur des choses très accessibles. Sur le site internet, on va trouver des outils pour déterminer. Donc comme ça, chacun peut essayer un peu de déterminer l'espèce avec des questions simples, une queue, des écailles, des choses comme ça. Et là, il va y avoir vraiment un échange avec un naturaliste un peu expert qui va dire si oui ou non c'est l'espèce qui a été trouvée, ou sinon préciser laquelle c'est. Donc il y a un échange entre les citoyens et les experts.
Dans quelle structure, donc par exemple la CPIE, on peut la citer, on a une collecte de données scientifiques?
Alors on a tous les programmes qui sont portés par VigiNature, qui est un programme par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Voilà, ça peut être assez diversifié. On est sur des associations ou des institutions qui sont vraiment un lieu d'échange, de contact entre les scientifiques et le grand public. Parce qu'il y a vraiment deux volets. Il y a le volet sensibilisation et le volet collecte d'informations scientifiques.
Et donc, on peut retrouver ces programmes? Est-ce qu'il y a une adresse? À qui on doit parler pour trouver ces structures?
Déjà, on peut parler à nous. On peut venir au musée d'initiation à la nature de la ville de Caen ou à la maison de la nature et de l'estuaire à Salnel, puisque dans chacune des deux structures, on va trouver un point info biodiversité. Et notre rôle, c'est vraiment d'informer sur les différents programmes de sciences participatives, donc biodiversité, qui vont exister et sur lesquels on peut prendre part. Maintenant, on peut trouver plein d'informations, bien sûr, sur Internet avec les différents protocoles. Ça dépend un petit peu de son niveau et de son intérêt.
Est-ce qu'il y a des programmes qui sont lancés en ce moment au CPIE à destination de public qui correspondent un peu à la saison? Je sais que c'est le printemps, donc est-ce qu'il y a des programmes qui arrivent?
On est sur des programmes qui fonctionnent depuis des années. C'est vrai que le but, c'est pas d'en avoir tout le temps des nouveaux, parce que le but, c'est d'avoir vraiment une collecte d'informations dans le temps. Donc, Un dragon dans mon jardin, il y a un nouveau format qui est lancé sur la nuit des dragons, mais c'est plus à l'automne. Là, nous, on met vraiment en place, je disais tout à l'heure, l'observatoire des saisons, parce qu'on s'est inscrit comme station de collecte d'informations, et on développe actuellement des outils pour d'une part apprendre à repérer les stades, les différents stades qui sont nécessaires pour la science, cette science participative, et aussi pour comprendre l'enjeu, parce que c'est vrai que parfois ça peut paraître anodin de dire s'il y a des fleurs ou non dans un pommier, mais pour remettre vraiment dans le contexte des changements globaux et et de justement qu'est-ce que ça donne comme type d'information.
J'ai lu qu'il y avait aussi de la pêche à pied sur les côtes du Calvados. Ça consiste en quoi comme activité ?
Donc on est coordinateur d'un programme qui s'appelle Pêche à pied de loisirs. Le but c'est de la sensibilisation pour les gens qui pratiquent la pêche à pied. Donc on fait des réglettes, des choses pour informer de la taille minimale pour collecter les animaux. Le but c'est qu'ils puissent du coup se maintenir, que les populations puissent se maintenir et se reproduire. Donc là, voilà, on fait participer les gens sur l'aspect sensibilisation, mais on fait aussi des comptages. Le but, c'est de compter le nombre, pendant les grandes marées, le nombre de pêcheurs à pied. Ça va permettre de savoir aussi l'impact de l'activité humaine, de la pêche, même de loisirs, sur les stocks de population.
Alors, on va continuer la discussion dans C'est pas faux, avec juste après une pause musicale. Et on va écouter donc Pongo avec Comessa sur Radio Phoenix. Nous écoutions Pongo sur Radio Phoenix, vous êtes toujours dans C'est pas faux, dédié aux sciences participatives. Et nous sommes toujours en studio avec Anaïs Provost-Gauvrich, chargée de communication au CPI Vallée de l'Orne. Et François Millet nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du projet Science avec et pour la société au Dôme de Caen. On a un petit peu parlé en première partie de la définition des sciences participatives et des disciplines auxquelles ce phénomène s'appliquait. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition des sciences participatives ?
Vous l'avez dit un petit peu en introduction, il y a cette question de faire avec. Donc les sciences participatives, soit on a une définition vraiment un peu stricto sensu qui consiste à dire c'est la population, vous, moi, et tout un chacun qui peut fournir de la donnée finalement à des équipes de recherche ou à des programmes de recherche. Donc ça c'est vraiment la définition très très pratico-pratique, mais finalement ça s'inscrit, les sciences participatives, dans un champ beaucoup plus large, qui va être celui des recherches participatives, où là, ça peut aller dans plein de domaines qui vont jusqu'à le domaine de la santé, le domaine de l'astrophysique, le domaine des sciences humaines, de comment on travaille avec une population pour faire émerger des programmes de recherche et les mettre en œuvre. Les sciences participatives sont un de ces éléments-là, finalement, où la population peut transmettre de la donnée, mais ça s'inscrit dans un champ beaucoup plus large.
Alors, je l'ai dit, vous êtes au Dôme. Quels sont les programmes et les ateliers que le Dôme a et qui mène le Dôme dans un objectif de science participative?
Alors, le Dôme, c'est un centre de culture scientifique. Hein, il en existe au moins par région. Je pense peut-être les plus connus. Notre référent, on va dire, à l'échelle nationale, c'est la Cité des Sciences. Donc, quand on dit Cité des Sciences, les gens reconnaissent. Alors, maintenant, ça s'appelle Univers Sciences avec le Palais des Découvertes. Donc, c'est ça, notre activité, c'est de faire des expos, des conférences. Et c'est vrai qu'au Dôme, à Caen, ce qu'on propose, c'est de venir contribuer à des programmes de recherche. Il y en a beaucoup. Il y a certains des programmes, voilà, on a déjà pas mal qu'on travaille en partenariat avec le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, pardon, le CPIE, ça va plus facile de dire CPIE. et puis on a d'autres, là en ce moment, par contre, on a tout un travail sur la question du blob. La chercheuse et CNRS de Toulouse, Audrey Dussutour, est venue en conférence la semaine passée, et on a des blobs qu'on peut adopter, on promeut comme ça les protocoles de recherche participative qui sont proposés par Audrey Dussutour, mais on en a d'autres, on a mené tout un programme sur la question de la transition énergétique et de l'hydrogène, on en a un en cours du côté même, voilà, hors les murs, à Rouen, sur la question là aussi de l'acceptation, l'acceptabilité, même si on n'aime pas ce mot-là, d'un car à hydrogène sur les routes. On en a d'autres qu'on essaye de mettre en œuvre et qu'on est en train de monter en ce moment sur la question du littoral. On va avoir des choses qui vont arriver sur les biomatériaux, donc on voit que impliquer la population dans des questions de recherche et des questions de science et de société, en fait, de participer à définir finalement le monde de demain, c'est un sujet. Et puis le temps fort, nous, de l'année, c'est aussi le Turfu Festival. C'est pendant une semaine, on a c'est plus d'une centaine de sessions d'ateliers. On invite tout à chacun à venir travailler, tantôt avec le CPE, tantôt avec des chercheuses et chercheurs, tantôt aussi avec des entreprises, des personnes, voilà, ou du monde de l'association, de l'économie sociale et solidaire. Les thèmes sont très vastes.
Justement, comment est-ce qu'on arrive à faire travailler les scientifiques et les citoyens ensemble ?
Alors, comment est-ce qu'on y arrive? En fait, on peut commencer à dire oui, c'est un métier. C'est un métier, effectivement, de trouver des dispositifs qui permettent déjà à tout le monde de se comprendre, de trouver des temps, des lieux, des situations, de permettre aux chercheurs d'expliquer où en est aussi l'expertise et l'état des connaissances sur le sujet. C'est aussi une façon, en fait, de remettre l'expert au cœur des situations. Les experts qui sont souvent un peu chahutés, de les remettre au bon endroit, c'est d'apporter leur expertise. Et puis après, le but, c'est de créer des temps de discussion, des temps d'atelier où on fait émerger des problématiques. On imagine des protocoles, on s'appuie aussi sur les usages et le vécu quotidien des personnes en voyant ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent mettre en œuvre. Là, on a un programme, on est en train de voir comment on peut installer des caméras pour capter la biodiversité en milieu urbain. Bon, il faudra qu'on mette en place des ateliers, par exemple, avec le CPIE pour se réfléchir avec les habitants, pourquoi pas d'un quartier, sur quel est le meilleur endroit où mettre la caméra, ce genre de choses. Donc, on voit qu'il y a plein de façons d'impliquer des publics, que ce soit d'imaginer, de mettre en œuvre, de collecter la donnée, peut-être même d'analyser la donnée. Une fois qu'on a donné ces données sur les programmes qui étaient cités à l'instant, comment est-ce que la population, elle peut aussi regarder les données, voir ce qui est produit et puis voir si elle peut les analyser. Donc c'est plutôt que de faire essentiellement de la pédagogie ou de la sensibilisation, on invite les publics à venir faire. Et on regarde si quand on vient faire, quand on vient s'appliquer, quand on apporte sa part, déjà quelle part on en retire et puis qu'est-ce que ça produit collectivement.
Alors comment les données et les observations scientifiques qui sont collectées sont partagé, par exemple au CPIE.
Mais François disait, hein, il y a un métier, c'est l'accompagnement. Quand même, on accompagne aussi ces programmes-là, à la fois dans l'explication des protocoles, mais aussi du coup dans le traitement des données. Parce qu'en effet, alors il y a des interfaces. Chaque science participative va avoir une interface différente en plus. Donc il faut savoir comment rentrer la donnée. Et c'est vrai qu'il y a un traitement de la donnée avant de la fournir aux scientifiques. Pour toujours homogénéiser et que ça puisse après être de la donnée quantitative et qualitative.
Parce que l'un des enjeux de la science participative, François Millet, c'est qu'elle constitue un échange de bons procédés en fait, entre les amateurs qui partagent leurs observations, parfois avec leur passion, et les scientifiques qui partagent leur savoir.
Alors il y a ça, et puis effectivement il y a cette question d'échange, donc ça c'est pour qu'un programme de sciences participatives réussisse, en général il faut effectivement s'assurer qu'il y ait des temps d'échange, qu'il y ait des temps de formation et qu'il y ait un contact réel, parce que souvent c'est des choses qui se font par l'intermédiaire de plateformes numériques, donc c'est vrai que les programmes qui fonctionnent sont ceux où à un moment il y a de l'humain, mais c'est surtout que ces programmes-là ils pourraient pas exister autrement, c'est-à-dire que on peut pas mettre un chercheur dans chaque jardin de chaque année pour observer. Donc c'est tout d'un coup prendre part à quelque chose qui nous dépasse, à une démarche collective dans laquelle on est tous effectivement une petite brique, mais c'est l'ensemble de ces petites briques qui fait que ça marche. Et je pense que ça aussi, le fait au quotidien, juste par une observation, de la faire remonter au bon endroit, sentir qu'on finalement c'est une petite goutte, mais que c'est l'ensemble de cette petite goutte qui fait quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui mobilise beaucoup les participants. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre des sciences participatives, dans le cadre des recherches participatives. Là, vu qu'on parfois c'est certaines personnes qui apportent leurs propres problématiques de recherche, on voit tout à fait l'intérêt qu'on peut y retrouver, puisque là c'est comment les sciences peuvent être aussi un outil d'interprétation, de faire produire des connaissances pour résoudre des problèmes ou résoudre des problématiques et trouver, alors pas forcément trouver des solutions, mais au moins apporter de la connaissance sur des sujets et qui répondent aux besoins des populations. Donc ça c'est un des retours qu'on peut avoir.
Alors quand on est une petite goutte ou une petite brique, concrètement, quel est le processus ? On observe, on note et on envoie des recherches à des groupes.
On prend connaissance du protocole, parce que chaque programme va avoir un protocole différent. Et en effet, il faut une rigueur scientifique là-dessus. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a différents types de données. Donc ça peut être très, très accessible. Mais il y a des programmes pour tous les niveaux de connaissances, depuis vraiment grand public, quelqu'un qui va juste prendre une photo.
Ça peut passer par des photos, par des vidéos, ça peut être parfois
des comptages.
Peut-être des comptages. Et donc n'importe qui peut, sur un petit carnet par exemple, faire ses propres recherches et arriver avec son carnet et dire voilà, j'ai noté ça. Mais il faut quand même, y a quand même une question de dialogue. Comment on fait pour parler la même langue ?
Là aujourd'hui, il y a quand même pas mal de plateformes qui sont mises en œuvre. Donc l'avantage aussi de l'internet, c'est la démultiplication. Je pense qu'il y a un essor aujourd'hui des sciences participatives, aussi par l'essor des outils, et puis que le device, on l'a tous dans les mains. L'objet, voilà. La photo, le smartphone peut en même temps permettre de faire la photo. Maintenant, les chants d'oiseaux, il y a même quelque chose. Voilà, il y a le Shazam des chants d'oiseaux. Donc il y a de plus en plus d'outils qui permettent de rendre la population, n'importe qui, autonome, soit pour reconnaître des plantes, soit reconnaître des oiseaux et autres. Et après, chaque plateforme est différente, hein, chaque protocole. Il ne faut pas croire que les sciences, c'est il y a un protocole puis tout est fait pareil. Non, la façon même de faire collecter la donnée, la façon même de le regarder, de la durée, l'endroit où on était, l'heure où on était, c'est autant de paramètres. Là où il y a d'autres protocoles qui ne nécessitent pas. Quand il s'agit de regarder un caillou, on se fiche de savoir l'heure, la durée. Quand il s'agit de regarder un oiseau ou une plante, c'est pas la même chose. Donc là, effectivement, il y a une démultiplication des plateformes. Il y a des démarches aussi pour assurer que ces plateformes, peut-être on puisse trouver des endroits où on peut faire converger l'ensemble des plateformes. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui dans cette dynamique-là, mais et qui n'est pas non plus réservée aux sciences de toute façon. Je pense que des outils cartographiques, par exemple, comme on va citer l'initiative open source, la OpenStreetMap, participent aussi de cette démarche. Donc il y a aussi des chercheurs ou des spécialistes ou des amateurs qui se réunissent pour valider souvent la donnée entre le moment où elle est livrée et puis voilà, de s'assurer. Il y a des outils comme ça de redressement ou de validation. Quand une donnée, elle n'est pas sûre, souvent ils reviennent vers l'observateur pour dire ah bon, c'était à quel endroit et comment. Mais puis aussi des personnes qui documentent et qui produisent de la donnée. Donc ça va de l'amateur éclairé jusqu'à la personne qui va faire ça une fois dans sa vie. Là, le spectre est très large.
Est-ce qu'il y a beaucoup de citoyens engagés dans des processus de collaboration avec les scientifiques ?
Il y a beaucoup d'envie. C'est vrai que quand on en parle sur des salons ou des événements avec beaucoup de public, on se rend compte qu'il y a vraiment peu de gens qui connaissent. Mais dès qu'on explique, les gens, ça les intéresse beaucoup. Parce que du coup, voilà, ça permet à la fois de mieux connaître l'environnement dans lequel on évolue, de monter en compétences, parce que quand même, ça propose chacun des protocoles et puis donne des informations. Donc ça permet de mieux connaître Et puis, bah voilà, ça donne une certaine utilité hein, pour voilà, les recherches. Donc oui, il y a vraiment un engouement là-dessus. Après, de gens qui suivent vraiment régulièrement, il y en a moins. Mais après, c'est intéressant justement d'avoir ces communautés-là et de pouvoir voilà, le compter sur eux et puis de faire un groupe. Et puis, c'est une fois que quelqu'un aussi connaît, il peut en parler autour de lui.
Et vous avez... Pardon, parce que moi, les statistiques qui ressortent par rapport à ces sujets-là, c'est qu'en général, pour avoir 10 personnes qui contribuent réellement fortement, il faut qu'il y en ait 1000 autres derrière qui puissent juste voir ou faire. Donc en fait, effectivement, si on a, imaginons qu'on a 100 contributeurs sur un programme très, très actif, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y en ait au moins eu 10 000 qui aient vu ou fait une contribution. C'est-à-dire que pour avoir des noyaux durs, il faut des grosses communautés derrière. C'est le principe quasiment de toute démarche de communauté. Hein. Les plus actifs ne le font que soit on est sur une communauté savante qui marche en vase clos, soit quand on est comme ça dans des démarches participatives, effectivement, on a ce genre de choses. On était à quelques dizaines de milliers sur les programmes. Si on prend tous les programmes Vigie du muséum, entre Vigie Terre, Vigie Ciel, Vigie Nature, voilà, on a quelques dizaines de milliers de personnes de mobilisées.
Et parmi ces personnes, parmi ces citoyens, il y a des petits, vous avez des projets en partenariat avec des écoles.
Oui, le but aussi sur le territoire, c'est de faire vraiment des liens. Et puis, bah, les enfants qui sont aujourd'hui à l'école sont les citoyens de demain. Donc, c'est important que tôt de leur donner des outils en main et puis justement de les mettre avec ce type de démarche, de vocabulaire, de protocole. Voilà. Et puis, l'idée, c'est notre métier, la médiation. Donc, aller à leur rencontre, leur expliquer et leur faire prendre part à ces programmes-là, c'est vraiment intéressant.
Et au Dôme aussi, vous organisez des visites avec des scolaires pour leur transmettre cette envie de la science.
Alors le Dôme, c'est plutôt organisé pour un public à partir de 15 ans. Donc on est plutôt sur un public adulte. Donc on a seuil bien sûr des classes et sur ce genre de choses. Mais en dessous des classes de 3e, c'est plus rare. Et aussi parce qu'il y a d'autres gens qui le font très bien, voire mieux. Enfin voilà, le but, c'est pas non plus de faire venir le CPIE. Il y a toutes les classes et puis un travail très, très de proximité. Donc nous, on a sur un public, on est plutôt à essayer d'inviter un public adulte. Et on a, nous, toutes les semaines, on a deux ateliers de 2 heures, soit pour se former à des outils collaboratifs du Fab Lab, soit pour contribuer ou se former ou découvrir des programmes comme ça de recherche participative. Donc c'est tous les mercredis et tous les samedis de 14h à 18h. Et on a aussi tous les mercredis et jeudis, on a des clubs où on invite les personnes à venir s'engager là aussi sur des démarches participatives qui sont plus de la recherche-action. Alors voilà, qui sont plutôt voilà, des tests essais-erreurs sur des prototypes ou ce genre de choses qui ne rentrent pas forcément dans des grands programmes nationaux de sciences participatives, mais on est en permanence sur ces dynamiques-là.
Est-ce que c'est les observations qui ont été faites par ce phénomène de sciences participatives vous ont permis au Dôme ou au CPI de déjà remarquer quelques observations, que ce soit sur la biodiversité ou sur d'autres disciplines? Est-ce que vous avez des exemples?
Alors nous, on ne va pas être dans le traitement des données. On va vraiment être dans la collecte et la sensibilisation. Maintenant, j'entendais que maintenant, sur les études scientifiques de l'impact des changements globaux sur les populations d'oiseaux, je crois que peuvent se baser jusqu'à 50% sur des données de sciences participatives. Donc, ça montre que ça a vraiment un intérêt.
Et nous, du coup, en prolongement de ça, c'est vrai que il se trouve que l'Université de Caen et le Dôme ont remporté aussi un appel à projet qui s'appelle Science avec et pour la société. Et nous, dans ce cadre-là, on va monter un colloque scientifique justement dédié aux recherches participatives, parce que cette question-là est pertinente à un moment ou à un autre, que les personnes, les équipes de recherche qui travaillent sur la science et les recherches participatives aient aussi un lieu où finalement ce qui est produit au travers de ces recherches participatives soit mieux connu, parce que c'est aussi le meilleur moyen de faire venir après des nouveaux publics qui se rendent compte que ça produit vraiment des choses. Donc nous, on travaille justement pour l'organisation d'un colloque et aussi d'une revue, alors plutôt orientée revue scientifique, mais on espère avec un volet vulgarisé, organiser un colloque et une revue justement pour témoigner des résultats des recherches participatives, qu'elles soient sciences participatives à l'échelle nationale, mais aussi des programmes qui sont extrêmement locaux, hein, parce qu'on en a ici, il y a des programmes qui sont de relevés qui concernent vraiment que quelques équipes de recherche sur la Normandie. Encore une fois, c'est ce que je disais sur le Turf Festival, on a beaucoup d'équipes de recherche de l'université ou autre qui sont sur des tout petit programme pendant 6 mois, on a besoin de la population, soit pour venir imaginer, faire, fabriquer, recenser, et ce genre de choses. Donc ça, ce sera un outil en tout cas pour mieux mesurer, c'est ça la question de la mesure d'impact finalement de ces démarches participatives.
C'est ça, parce qu'il y a un mode de partage en fait de ces informations et de ces recherches qui s'appuient, les recherches s'appuient sur les sciences participatives, mais quelque part elles peuvent peut-être contribuer à ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, donc par des articles, par des livres, par des vidéos, des documentaires par exemple. Est-ce que justement ce concept de vulgarisation scientifique, c'est aussi quelque chose qui vous habite au CPI ?
Au
CPIE, pardon.
oui. Alors, c'est plutôt, on parle plus de sensibilisation. Mais en effet, dans le vocabulaire et puis le côté naturaliste, on n'est pas naturaliste. Donc, le but, c'est d'apprendre à pouvoir monter en compétences là-dessus. Et puis, en effet, ce qui va être fait, c'est de donner des informations qui vont pouvoir intéresser d'autres. Donc, c'est toujours un moyen de communication et de médiation vers des publics plus larges.
Alors, il y a une autre finalité que j'ai remarquée dans le concept des sciences participatives. Ça peut être aussi de démontrer l'importance d'un sujet face à d'autres citoyens ou à des décideurs qui en prennent pas forcément l'exemple. Il y a le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre qui préoccupent pas forcément tout le monde de la même façon. Est-ce qu'il y a aussi ça, à travers la science participative, l'idée de montrer pour que tout le monde comprenne ce qui se passe dans la nature ?
Oui, je parlais tout à l'heure de l'Observatoire des saisons. C'est justement l'objectif, c'est de montrer que voilà, rien qu'observer quand arrivent les oiseaux migrateurs, ça donne des informations, ça montre qu'il peut y avoir un décalage. Cette reconnexion avec la nature, les éléments et puis l'observation, ça permet en effet de rendre concret des choses dont on parle de manière globale. Donc ça nous concerne tous.
Pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est effectivement, on va dire, jusqu'à il y a encore quelques années, il y avait un volet, la vulgarisation, la pédagogie d'un côté, et puis la recherche de l'autre. Mmh. Il est clair qu'avec les démarches de sciences participatives et de recherche participative, le but, c'est de se dire, mais pourquoi les séparer finalement ? Pourquoi dire, ok, en fait, il y a des trucs sérieux, c'est la recherche, et puis les trucs, les gens savent pas, alors on fait de la pédagogie ou de la vulgarisation. Non, là, en fait, la vulgarisation, c'est un outil, c'est pas une finalité de vulgariser. Le but, c'est effectivement de montrer aux gens qu'on peut s'impliquer, qu'on peut être acteur, soit d'une compréhension, soit d'un changement. Donc, plutôt que de faire tantôt des choses de sensibilisation ou d'information purement, en espérant que peut-être que les gens vont changer de comportement ou s'impliquer ou se saisir d'enjeux de science et de société, là, on leur fait faire. L'idée, c'est de faire pour de vrai, pas de faire pour de faux. Faire du pédagogique, c'est on fait pour de vrai, la donnée, elle va vraiment servir. Donc oui, bien sûr que oui, je pense que c'est aussi ça l'engouement qui a en partie plamonté, c'est qu'il y a, c'est aussi une façon différente de sensibiliser, de faire de la médiation, de trouver d'autres méthodologies, de se dire, plutôt que de tantôt d'accompagner la recherche et puis tantôt de faire de la médiation, on fait les deux en même temps. Donc là, il y a un côté améliorer les sujets, et puis le but, c'est de ne pas se substituer non plus aux chercheurs. C'est-à-dire que c'est de, à un moment ou à un autre, permettre un dialogue, comprendre que les chercheuses et les chercheurs, c'est pas des gens, c'est des gens comme tout le monde, quoi, qui sont dans leur tour d'ivoire, qui on a pour de parler, on peut les aider, en fait. Voilà, nous, on connaît suffisamment de chercheuses et de chercheurs, je pense, entre le CPE ou le DOM, pour savoir que c'est des amis, c'est des gens comme tout le monde, quoi.
Alors, comment faire si on souhaite faire partie d'un programme de sciences participatives? On peut s'adresser au DOM, on peut s'adresser au CPE?
Alors, en général, c'est pas, on dit, tiens, je vais faire des sciences participatives. ça se passe pas. En fait, la réalité, c'est que rarement on s'intéresse aux sciences participatives. Par contre, on va s'intéresser à un sujet. C'est, j'ai un hérisson dans mon jardin. Et donc, c'est plutôt par le quotidien, par l'envie, ou parfois par le militantisme. Effectivement, il y a des gens, on le disait, la question du réchauffement climatique, il pourrait y avoir des personnes qui ont des convictions, qui sont engagées, qui sont militants, ou alors qui ont un problème à côté de chez eux, qui est, l'eau que je bois, elle est dégueulasse. Pourquoi? On va faire de la recherche participative dessus, peut-être. Donc, c'est d'abord par le sujet que les personnes arrivent, plutôt que de se dire ex nihilo, j'ai envie de faire de la recherche. Même si ça peut arriver, en tout cas, nous, c'est ce qu'on observe. Il y a des sujets qui ramènent plein de personnes, d'autres sujets qui amènent moins de monde. Tantôt, on va voir un papillon dans son jardin, on va dire, mais qu'est-ce que c'est? Puis en cherchant le papillon, on tombe par hasard. Et donc, c'est petit à petit qu'on s'y met. En général, on participe comme ça à une journée d'atelier sur un sujet, et puis la fois d'après, on contribue. En tout cas, nous, c'est ce qu'on observe sur certains programmes.
Et au CPE aussi, ça se passe un peu de la même façon?
Exactement, oui. Nous, on propose des ateliers ou des animations en lien avec des sciences participatives. Le but, c'est de montrer justement la facilité d'accéder à ces programmes. Et donc, après, d'avoir participé à un peut entraîner aussi un intérêt pour participer à d'autres.
Alors, concernant les prochaines actualités du Dôme en sciences participatives, demain, mercredi 4 mai, aura lieu une rencontre sur l'agriculture urbaine et connectée afin de partager et échanger sur les projets possibles pour consommer et produire en milieu urbain grâce aux nouvelles technologies. Et puis, on peut évidemment retrouver les autres actions sur ledôme.info dans la rubrique programme. Et pour le CPIE Vallée de l'Orne, ce jeudi, je crois, un atelier participatif sur les planctons pour les observer et apprendre à mieux les connaître. Et pareil, encore une fois, on peut retrouver tout le programme sur cpievdo.fr. Merci Anaïs Provo-Gaurich et François Millet d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix pour parler des sciences participatives. Merci. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Et tout de suite, place à l'agenda scientifique de la semaine. Ce mardi 3 mai, l'Université de Caen organise une conférence sur la physique intitulée « LISA, un détecteur spatial pour un nouveau messager, les ondes gravitationnelles ». L'objectif sera de parler du phénomène d'ondes gravitationnelles qui a été détecté seulement pour la première fois en 2015, ainsi que du détecteur laser LISA qui permet de les mesurer. La conférence sera animée par Yves Lemierre, enseignant-chercheur au LPC, le laboratoire de physique corpusculaire de Caen. Rendez-vous aujourd'hui à la bibliothèque universitaire Rosaline Franklin de 17h à 18h. L'événement est gratuit et il sera également diffusé en direct. Pour trouver le lien, rendez-vous sur l'agenda de unicamp.fr. Le festival Pint of Science est de retour au Dôme et au Warp Zone à Caen pour plusieurs soirées thématiques, animées par des chercheurs et des chercheuses de Normandie autour de leur quotidien, de la recherche participative et de l'écologie, dans le but de faire sortir la science des labos. Coup d'œil sur deux rendez-vous à venir au Dôme. Le premier est une conférence lundi prochain, lundi 9 mai, de 19h à 22h, sur la vie d'un chercheur, Savitri Gallego, qu'on avait reçu dans C'est pas faux, qui est doctorant au LPC, et docteur Jérémy Lefort-Bénard, qui est post-doctorant au laboratoire Comet. Ils viendront parler de leur parcours et de leur expérience. Et mardi 10 mai aussi, de 19h à 22h, une conférence sur la recherche participative pour approfondir le sujet du jour. Ça sera avec le docteur Fabien Decagne, directeur de recherche responsable du service sciences et sociétés à l'INSERM, et Sarah Perrier, doctorante au Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur les sciences participatives, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm. À 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne. Merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.